Merci. Je vais commencer par ça simplement. J'ai eu une motion dans mon cœur tout à l'heure. Délie les âmes par la grâce que je t'ai donnée, par la force de ma parole. Donc, je vais simplement faire une chose. Ça, c'est moi, ne vous inquiétez pas, je perds toujours quelque chose. Mais j'ai jamais perdu ma femme, merci Seigneur. Non, elle y veille pour que je ne perde pas là, hein, la tête. J'aimerais simplement lire ce texte, Apocalypse 12, verset 10. Et après, je vais faire un petit geste symbolique, parce que dans les églises évangéliques Kanak en Nouvelle-Calédonie, quand on entre dans une maison Kanak, il faut s'abaisser. La porte est basse. Il faut s'abaisser pour respecter les gens qui sont à l'intérieur. Avoir un petit peu d'humilité. Faut pas arriver comme ça, hein. J'ai entendu ça sur RCO, ça m'a édifié, hein. Alors on va lire ce texte, juste le verset. Je vais faire un petit geste symbolique, et puis après on va prier, et vous allez nommer tous ces gens que vous avez, dont vous avez parlé tout à l'heure, d'accord, hein, les jeunes, le frère là, en question de Michel, vous allez nommer tous ces gens, d'accord, hein. Et puis moi, et nous, on va prier ensemble, d'accord? Simplement, hein? Puis j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant, le salut est arrivé, ainsi que la puissance, le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ. Hein? En effet, il a été jeté dehors, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait, jour et nuit devant notre Dieu. C'est terminé tout ça. C'est terminé. Il a été jeté dehors. Maintenant, le salut, la délivrance est arrivé, ainsi que la puissance, le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ. Hein? Vous le croyez ça? Eh bien, merci Saint-Esprit. Nous avons été remis à la garde du Saint-Esprit, hein, par Jésus. C'est lui le chef. Hein. Donc voilà, priorité à la personne divine. Hein. Gloire à Dieu. Eh bien... Je sais que notre cher Jean-Luc est en train d'ouvrir sa Bible au psaume 2, versets 6 à 8. Hein? Et j'aimerais que nous puissions parler sur ce verset. Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Tu es mon fils, je t'ai engendré. Tu peux lire s'il te plaît, grand frère?
Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils. Je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Tu les briseras avec une verge de fer. Pardon, excuse-moi.
C'est rien. Bah oui, quand on est dans le règne du Seigneur, ça s'arrête plus, hein. Je t'ai engendré aujourd'hui. Engendré, c'est donner la vie. Le Père a la vie en lui-même. Le Fils a aussi la vie en lui-même. Il est engendré de toute éternité en Dieu, dans le sein du Père, comme une personne de condition divine, en forme de Dieu, avec sa volonté propre. Il priait le Père en disant, Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi. Père, je veux. » Il a les traits de caractère de son père. Tel père, tel fils, pouvons-nous dire. Hein? Dieu lui forme un corps humain avec son libre accord. Jésus, le Fils de Dieu, est d'accord de devenir un homme. C'est le deuxième engendrement du Fils de Dieu. Le premier, c'est dans l'éternité de Dieu. Le deuxième, c'est dans notre humanité. Le Fils est enfanté par une jeune fille vierge, Marie. Avant la conception, quand même, Dieu est poli. Il envoie un ange, Gabriel, auprès d'elle. Et il va dire à cette jeune fille son projet. Il va lui dire son intention. Hein? Elle accueille le projet de Dieu. Elle est d'accord. Je suis la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Le Saint-Esprit vient sur elle. La puissance du Très-Haut la couvre de son ombre. Le Saint-Enfant qui naît de cette jeune fille est appelé... Oui ? Oui ? Fils de Dieu. Amen. Mais vous le savez. Hein. Le prophète Ésaïe avait déjà annoncé cet événement sans précédent. T'es gentil de lire, s'il te plaît ?
Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix, donné à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume, l'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et à toujours, voilà ce que fera le zèle.
Merci. Alors maintenant, tout le monde est au courant. Hein. C'est le projet de Dieu. Hein. C'est le projet de Dieu. Le Fils engendré de toute éternité devient Père à son tour. Père éternel. Prince de la paix. Hein. Voilà. Gloire à Dieu. Faut pas que je me trompe dans mes feuilles. Hein. Le troisième engendrement du Fils de Dieu a lieu dans le cœur des hommes, des femmes, des enfants qui le reçoivent personnellement par l'esprit d'adoption. C'est le troisième engendrement. Jacques dit, Dieu nous a engendrés par la parole de vérité. Dieu nous a engendrés par la parole de vérité. Et nous pouvons lire cet engendrement du Christ, le Fils de Dieu, dans le cœur des disciples. Et si vous permettez, nous pouvons lire dans Luc, chapitre 5, versets 1 à 11. Un jour, Jésus se trouvait au bord du lac de Génézareth, et la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu. Il vit au bord du lac deux barques. On nous a parlé de naufrage tout à l'heure, hein. Ma foi, je dis ce qui s'est dit, quoi. Ce que le Saint-Esprit a dit. Il vit au bord du lac deux barques. Les pêcheurs en étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui appartenait à Simon et il le pria de s'éloigner un peu du rivage. Puis il s'assit et de la barque, il enseignait la foule. Quand il eut fini de parler, il dit à Simon, avance là où l'eau est profonde et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit, mais sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai les filets. Ils laissèrent descendre les filets et prirent une grande quantité de poissons. Leurs filets se déchiraient. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et remplirent les deux barques au point qu'elles s'enfonçaient. Alors j'espère que le naufrage n'ira pas jusqu'au bout. Hein, hein. Merci Seigneur. Hein. Mais enfin, il y a des naufragés dans notre monde. Hein. Hein. il y a des naufragés, au point qu'elle s'enfonçait. Alors elle nous a donné une technique de natation. Hein, il faut se laisser couler, c'est ça? Et puis après, il faut passer sous la vague. Hein. Mais moi, quand j'ai pris quelques tasses, et bien, vous voyez, des fois, dans un, hein, vraiment, quand les circonstances sont tragiques, hein, c'est le cas de le dire, hein, une fois qu'on a pris quelques tasses, ça, c'est une championne, alors vous pourrez prendre des conseils auprès d'elle, d'accord? Hein, voilà, alors j'en étais où, moi? Tiens, voilà. Les deux barques au point qu'elles s'enfonçaient, d'accord? Verset 8, « Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba au genou de Jésus et dit, « Seigneur, écarte-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. » En effet, lui et tous ceux qui étaient avec lui étaient remplis de frayeur à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en allait de même pour Jacques et Jean, les fils de Zébédée, les associés de Simon. Jésus dit à Simon, « N'aie pas peur. Désormais, ce sont des hommes vivants que tu prendras. Désormais, tu seras pêcheur d'hommes. N'aie pas peur. » La foule se pressait pour entendre la parole de Dieu. Pierre et les disciples sont là, ils écoutent l'enseignement. Jésus va les engendrer à la vie de Dieu. Il manifeste sa puissance dans cette pêche où la quantité impressionnante de poissons ramenés dans les filets aurait fait couler la barque si les autres disciples n'étaient venus les aider. Qu'est-ce que vous avez dit dans votre pensée tout à l'heure? Pour ceux qui n'arriveraient pas à atteindre le rocher, des frères et sœurs étaient là pour nous aider. Hein. Enfin, ça va, on ne s'est pas téléphoné. Hein. Mais le Seigneur, lui, il est partout, par son esprit. Hein. Heureusement que les autres sont venus les aider parce qu'ils coulaient sous la bénédiction, comme a dit quelqu'un. Hein. Mais parfois, c'est le naufrage. Alors là, c'est dommage. Voilà. Alors Pierre est dépassé et effrayé comme les autres disciples. Il dit, Seigneur, écarte-toi de moi car je suis un pécheur. Ils avaient pêché toute la nuit. Nul doute qu'ils avaient déjà jeté leur filet dans les eaux profondes pendant la nuit de pêche. Mais ils n'avaient rien pris. Dans sa connaissance divine, Jésus leur donna un conseil tout simple. Avance en eau profonde. Et merveille, la pêche est au-delà de leur espérance. Jésus sait tout, même ce qu'il y a dans les eaux profondes du lac. Il connaît aussi les profondeurs de notre âme et de nos cœurs. Il a délivré le prophète Jonas des eaux très profondes. Hein ? Il était dans l'estomac d'un grand poisson, lui. Ils étaient tous très fatigués, mais ils ont fait ce que Jésus leur a demandé. Ce que Jésus leur demande est faisable et possible. Avance en eau profonde. Laissons descendre la parole du Christ dans les profondeurs de notre cœur. Ce que Jésus nous demande de faire est à notre portée. Faisons-le. Nous serons surpris de l'efficacité de sa parole et impressionnés par son action puissante. Nous n'aurons plus qu'à nous incliner pour l'adorer, lui notre roi puissant. Pour Pierre et ses compagnons, c'est une nouvelle étape. Ils s'y engagent en tremblant. Jésus dit à Pierre, n'aie pas peur. À partir de maintenant, tu prendras des humains vivants. Tu seras pêcheur d'hommes. Il n'est pas au bout de ses surprises. Un jour, Jésus leur pose une question. Qui dit-on que je suis, moi? Qui dit-on que je suis? Alors Jésus pose une question comme ça devant tout le monde. À tout le monde, enfin à ses disciples. Pierre reçoit la réponse dans son cœur. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Bienheureux es-tu, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas de toi-même que tu dis cela, mais mon Père qui est dans les cieux te l'a révélé. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Le Père engendre son Fils spirituellement dans le cœur de Pierre. La même chose est arrivée à Saul de Tarse, le persécuteur de l'Église de Dieu, en Galate, quand Dieu qui m'a mis à part dès le sein de ma mère a jugé bon de révéler en moi son Fils pour que je l'annonce parmi les nations païennes. Pierre et Paul, à plusieurs années de distance, vont faire la même expérience de Dieu. Le Père révèle en eux son Fils. Appelés par la grâce du Christ, ils vont répandre l'Évangile dans le pays d'Israël et jusqu'à Rome. Ils seront utilisés par l'Esprit Saint pour engendrer le Fils dans le cœur de beaucoup d'hommes, de femmes et d'enfants. Vous voyez, l'engendrement, hein, donner la vie. Dieu donne à son Fils d'avoir la vie en lui-même. Le Fils, il voit ses disciples, il leur donne par sa parole d'être engendrés par Dieu, à la vie de Dieu, par l'Esprit Saint. Et les disciples, à leur tour, vont engendrer le Christ parce qu'il est engendré dans leur cœur. Il est engendré dans leur cœur. Le Saint Paul a dit, ce n'est plus moi qui, c'est donc le Christ est engendré dans nos cœurs. On ne le voit pas, bien sûr. C'est formidable. Et il dit, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est donné lui-même pour moi. Donc le Christ est dans nos cœurs. Le Père, par la parole de vérité que nous entendons, engendre le Fils en nous, spirituellement. Que Dieu soit béni, hein? Que Dieu soit béni. Il n'est pas que dans le ciel, Jésus, hein? Il est en nous. Et il règne. C'est la promesse du Père. Tu es mon Fils. Demande-moi. Je te donnerai les nations pour héritage. Ben, c'est vrai. C'est vrai, hein? Ah, gloire à Dieu. Hein? Bon. Faut que je lise mes notes parce qu'après je suis dissipé, alors je m'éloigne. Donc ils engendrent à leur tour la vie de Dieu par la foi au Christ. C'est Galates 4 verset 19 qui nous l'apprend. Les Galates étaient tentés de retourner à des règles, à des traditions d'hommes. Paul va replacer la croix en leur disant, mes enfants que j'enfante dans la douleur à nouveau, jusqu'à ce que le Christ soit formé en vous. Galates 4, verset 19. Mes enfants, que j'enfante à nouveau dans la douleur, jusqu'à ce que le Christ soit formé en vous. Paul devient père à son tour. Il n'aura qu'un message. Le Christ. C'est lui que nous annonçons, dit-il, en Colossiens chapitre 1, verset 29. C'est lui que nous annonçons en avertissant tout homme, instruisant tout homme en toute sagesse, afin de rendre tout homme parfait en Christ. Le Christ est né dans nos cœurs par l'engendrement de l'Esprit Saint, de la parole de vie. Le Christ est né, il grandit, il doit être formé en nous. Il faut qu'il grandisse en moi et que je diminue, hein, et jusqu'à devenir adulte, jusqu'à ce que nous devenions adultes en Christ et pas des enfants. Faut pas rester enfant, hein. Béni soit Dieu pour un enfant qui naît, alléluia, hein. Tout le monde est souriant, hein. Imaginez un mariage. Bon, tout le monde est autour de la mariée, tout ça, qu'elle est belle. Imaginez aussi une petite mère qui arrive avec son bébé de quelques jours dans les bras. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? la belle mariée, splendide, hein, et bon, son mari l'aime toujours, merci Seigneur, hein. Mais vous voyez comme quoi, l'enfant, l'enfantement, c'est merveilleux, c'est incomparable. Quand vous voyez un enfant, le visage d'un enfant, mais vous dites, mais c'est miraculeux, hein. J'en suis pas encore revenu, moi, des 3 naissances de nos enfants. Hein? J'en suis pas encore revenu. Je suis toujours aussi émerveillé. C'est impensable. Hein? La naissance, la nouvelle naissance, la vie de Dieu qui est engendrée par le Christ dans mon cœur, dans ma vie, par le Père, c'est la plus grande chose qui soit. Au commencement, Dieu a dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Dieu, dans son unicité plurielle, quelque part, il a dit, faisons l'homme. Ils s'y sont mis ensemble. L'œuvre était tellement compliquée. Ils ont modelé une personne humaine, un corps humain. Hein, et après, Dieu a soufflé dans ses narines un souffle de vie. Et l'homme est devenu un homme, une âme vivante, avec une personnalité. La création, celle-là, était tellement compliquée qu'il a fallu l'action du Père, du Fils et du Saint-Esprit. N'est-ce pas? Et c'est ce que Jésus dit, pour celui qui écoute ma parole, nous viendrons à lui, nous ferons notre demeure chez lui. Et dans la nouvelle naissance, en nous, c'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit qui font ce miracle de recréation. Voyez, c'est capital. C'est la chose la plus importante qui soit dans l'univers. Hein, voyez, la nouvelle naissance. Naître à la vie de Dieu par le Dieu vivant en Jésus-Christ, c'est la chose la plus belle et la plus merveilleuse qui puisse vous arriver, qui puisse nous arriver. C'est la chose la plus glorieuse qui soit. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Je me réjouis de la bonté de Dieu, de sa patience, de sa fidélité. Quelqu'un a lu tout à l'heure. Hein? Dieu nous donne ses bienfaits. Il répond à nos prières. Il nous délivre. Il donne sa vie sur la croix, le Christ, bien sûr. Et nous, on n'y comprend rien du tout. Les disciples d'Emmaüs, hein? Dieu, il fait tout ça. Il fait briller son soleil, tout ça. Il fait pleuvoir sur les méchants, sur les bons. Et nous, on passe là. On n'y comprend rien du tout. Enfin, pourquoi? Parce que Jésus dit, « Ah, homme dont le cœur est lent à croire ce qu'ont dit les prophètes. Hein? » Eh bien, ne vous découragez pas. Dieu vous aime. Jésus t'aime. Il a un projet pour toi et pour le monde. Il veut engendrer le Fils de son amour dans ton cœur pour guérir ton âme, pour descendre jusqu'aux profondeurs de ton être, pour te recréer par l'Esprit Saint et par la parole du Christ. Réjouis-toi! Réjouis-toi! Oh, ben comment ça va se faire? Oh, ben alors, hein, moi je connais pas d'homme, je connais pas comment il faut, je sais pas comment il faut faire. Le Saint-Esprit viendra sur toi. Et de même que la puissance de l'Esprit Saint est venue sur Marie pour enfanter le Fils éternel, de même la puissance de l'Esprit Saint vient sur notre vie et sur la vie de ceux qui proclament le Christ pour que le Christ soit engendré dans les cœurs. Et dans le monde, que Dieu soit béni. Hein? Donc, Paul, il n'avait qu'un seul message. Quand Paul rencontrait quelqu'un, il ne lui parlait pas de sa religion juive, ni même de la religion chrétienne, mais non. Il disait, le Christ est ma vie. Je ne veux savoir aucune chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Merci Seigneur pour nos religions chrétiennes et pour la religion juive, hein. Que Dieu nous bénisse, hein, dans toutes ces connaissances que nous pouvons apprendre de tous ces gens consacrés à Dieu, alléluia, hein. Il dit, le Fils de Dieu m'a aimé et il s'est donné lui-même pour moi. C'est Christ qui vit en moi. Il n'avait qu'un message pour tout homme, libre ou esclave. Le Christ ressuscité d'entre les morts et vivant pour toujours dans le cœur des siens. C'était l'unique message, le seul message de Paul. C'est ainsi qu'à chaque génération, le Père engendre le Christ dans le cœur de ceux qui le reçoivent. Et de génération en génération, depuis le commencement, le Christ est engendré. Il a été engendré en Abraham, engendré en Sarah, en Isaac, en Rebecca, en Jacob. Il a été engendré de génération en génération, en David, en Samuel. Il a été engendré en Élisabeth, il a été engendré dans Jean-Baptiste, il a été engendré corporellement sur la terre. Il est engendré de génération en génération parce que Dieu a dit, tu es mon fils, aujourd'hui je t'ai engendré pour l'éternité et les jours de ta vie n'auront pas de fin, non seulement dans le ciel, mais sur la terre. Dans le cœur de ceux qui croient, le Christ est vivant et il règne. Et son règne n'aura pas de fin. Tes jours ne cesseront pas, dit l'Écriture. Hein? Le Christ est toujours engendré par le Père. C'est lui qui lui a fait cette promesse. Hein? Tu pourrais lire ce texte, s'il te plaît, Hébreux, chapitre 1, versets 5 à 11. Pourquoi ça? Pourquoi ça? Hein? Pourquoi Dieu a-t-il décrété cela? T'es où là? Ah non, Hébreux 1. Mais ça fait rien. C'était le passage qu'il fallait lire et puis que j'avais oublié, tout simplement. Déjà trois ou quatre passages dans le culte tout à l'heure que j'avais biffé, enlevé, et puis que le Saint-Esprit a lu. Alors tu as eu tout à fait raison, grand frère. Chapitre 1er, s'il te plaît. Ah là, ces hommes, hein. Oh, ils sont faillibles. Ah, ces hommes, faut les aimer comme ils sont. T'as suivi ça, j'ai mis 10? Ben alors, c'est une erreur de ma part, vous voyez, hein. Vous voyez que ma femme, elle a bien fait de se confier dans le Seigneur Jésus, hein. Dieu en a-t-il décidé ainsi? Parce qu'un jour, dans le ciel de Dieu, il y a eu un grand scandale. Dans le ciel de Dieu, Il y a eu une occasion de chute pour tous les êtres créés, les anges, les archanges, et même pour le Christ. Il y a eu un grand scandale dans le ciel. Vous le savez. Vous savez le scandale qu'il y a eu. Impensable. Lucifer, le plus glorieux des êtres créés, le plus beau, s'est révolté contre Dieu, entraînant le tiers des esprits angéliques avec lui. C'est Ésaïe 14, verset 3 à 19 qui nous le dit, Ézéchiel 28, verset 11 à 19, Apocalypse 12, verset 3, nous informe de cet événement impensable. Et comme Dieu est honnête, bien, heureusement que Dieu est honnête, hein. Mais nous, vous savez, un bazar comme ça dans une famille ou dans une église, hein. Moi je dis rien du tout, hein. Mais je fais le mort, hein. On n'est pas contre, hein. Qu'est-ce qu'on va dire, hein. Mais Dieu est honnête. Il va dire ce qui s'est passé vraiment dans le ciel. N'est-ce pas? Il ne va pas cacher le scandale. Oh, il ne va pas l'étendre, bien sûr, hein, mais il ne va pas le cacher. Le serpent, vous lirez Apocalypse 12, s'est révolté contre Dieu et il a entraîné. Hein, il voulait devenir l'égal de Dieu, être comme Dieu, gonflé d'orgueil. Le mal a été trouvé chez lui. Le ciel tout entier a été bouleversé. Michel, Michael, il y a un monsieur qui s'appelle Michel ici, que Dieu le bénisse, hein, Michael. Hein. Le ciel entier a été bouleversé. Michel et les deux tiers des autres anges restés fidèles à Dieu ont combattu et le diable est resté, a été chassé, pardon, et le diable a été chassé du ciel. Gloire à Dieu. Le Fils de Dieu a assisté à tout cela. Il a vu tous ceux qui s'élevaient contre son Père. En tant que personne libre et souveraine, à côté en Dieu, auprès de Dieu, à côté de Dieu, en tant que personne libre et souveraine, il aurait pu se laisser entraîner à la révolte contre le Père. Mais le Fils de Dieu est resté loyalement attaché à son Père. Jean chapitre 1, verset 1 nous dit que le Verbe, la parole était Dieu, elle était tournée vers Dieu. Le Fils de Dieu est resté tourné vers son Père. Le bazar était total, le scandale était total, mais le Fils de Dieu s'est tourné vers son Père. Il est resté tourné résolument vers son Père. Que Dieu soit béni. Hein? Il a choisi d'aimer son Père et de rester avec lui pour toujours et pour l'éternité. C'est pourquoi dans le ciel, devant tous les êtres vivants, Dieu lui rend ce témoignage. Tu es mon Fils. Tu as aimé la justice. Tu as détesté l'iniquité. C'est avec justice que tu gouvernes ton royaume. Ton trône, ô Dieu, est éternel. C'est toi, Seigneur, qui au commencement a fondé la terre et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Toi, tu es le même et tes années ne cesseront pas. Que tous les anges de Dieu l'adorent. Nous savons comment ici-bas, il est resté ferme jusqu'à la mort de la croix. Il a vaincu le mal et la mort. Il a triomphé des puissances infernales. Nous connaissons la méchanceté et la cruauté de Satan. Il a complètement détruit sans pitié la première famille de Job. Il s'est acharné sur sa famille. Il ne restait plus que sa femme. Et Job, couvert d'ulcères. Nous connaissons la cruauté, la méchanceté de cet être qui est déchu. Il était angélique, mais il est devenu Satan. Hein? et sans pitié. Il s'est acharné. Il se promenait comme ça, hein, comme quoi l'oisiveté, il faut faire attention, il se promenait. Alors Dieu lui dit, mais d'où viens-tu? Oh, ben je viens de me promener sur la terre. Hein. Alors tout va bien. Alors qu'est-ce que tu as pensé? Ce qui se passe sur la terre? Oh, mais il y a un mec. Celui-là, je ne peux pas le saquer, celui-là. Ben qui c'est? Ben c'est Job. Ben, enfin, c'est mon serviteur. Hein, il est... C'est un gars qui marche, hein, qui me fait confiance, etc. Mais c'est Job. Satan, mais enfin, c'est parce que, etc., etc. Hein, on ne va pas en rajouter. Et Dieu a permis la souffrance du juste. Et vous pouvez lire dans les premiers chapitres de Job, mais c'est impensable. La cruauté avec laquelle Satan a démoli sa première famille. Vous vous souvenez de ça, hein? Démoli. Ils ont été volés. Il y a eu des tempêtes. Les fils sont morts, etc. Exterminés presque. Il n'y a plus que rester lui et sa femme. Mais bien aimé, il faut se souvenir de la cruauté de cet être qui a été déchu. Et il faut se réfugier dans le Christ. Mais si nous ne sommes pas couverts par le sang de l'agneau, si nous ne sommes pas sous l'autorité de Jésus, mais nous sommes des mouches, comme des moustiques, n'est-ce pas? Comme des moustiques. Et notre seul refuge est de nous trouver dans le Christ. Il n'y a que lui seul qui est la force suffisante par le triomphe de sa vie divine et par sa croix de nous maintenir. Comment vous avez dit là? Voilà. Voilà. Eh bien, le Christ a choisi librement de rester attaché à Dieu en se tournant toujours vers le Père, malgré l'opposition qu'il a subie de la part des hommes. Soyons vigilants. Tournons nos regards vers Dieu, notre Père, chaque jour. Gardons les yeux fixés sur Jésus, nous dit Hébreux 12, pour grandir dans la foi. Ne restons pas des enfants. Le Christ doit être formé, se développer en nous. Nous devons nous enraciner en lui, devenir des adultes en Christ. Dieu dit, je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant, en 2 Corinthiens 6, verset 18. Séparez-vous, dit le Seigneur, de toutes les souillures du monde, et je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles. Tu es ma fille. Tu es mon fils, je t'ai engendré par la parole de vérité, c'est moi qui suis ton père, ton vrai père. Tu es ma fille, tu es mon fils, j'ai donné ma vie pour toi sur la croix. N'aie pas peur, marche avec moi, demande-moi et je te donnerai. Tu es mon fils, tu es ma fille. Demande-moi et je te donnerai. Tu es mon fils, je t'ai engendré. Oh, que Dieu soit béni. Oh, ben ça me fait toucher au cœur, moi, de savoir que nous sommes fils et filles de Dieu et de personne d'autre. Bien sûr, si nos parents sont là, que Dieu les bénisse, hein. Mais si on n'a plus nos parents, hein, nous sommes fils et filles de Dieu par la foi. C'est magnifique, hein? C'est la chose la plus grande qui puisse arriver, nous arriver dans notre existence. Nous ne pouvons pas faire l'économie de la prière persévérante. Quelqu'un a parlé de la prière, de la persévérance tout à l'heure. Il y a un tas de choses que j'avais biffées et que le Saint-Esprit a rappelé, comme ça. Ouais. Ah, il faut compter sur le Seigneur. Il faut compter sur l'Esprit-Saint, plus que sur Jean-Louis, hein? Nous ne pouvons pas faire l'économie de la prière persévérante. La réalité du combat et de la guerre que l'ennemi nous livre est trop dure. Et nous ne pourrions pas vaincre par nous-mêmes, par nos propres forces. Ils l'ont vaincu grâce au sang de l'agneau et à la parole de leur témoignage. Si je me suis planté, si je me suis trompé, si je me suis entêté, eh bien je dis Seigneur, vraiment, c'est de ma faute. Je te demande pardon, aie pitié de moi, dans le nom de Jésus de Nazareth. Pardonne mes péchés, secours-moi Seigneur, purifie mon âme, purifie mon cœur, purifie mon corps, purifie-moi Seigneur, libère-moi, libère-moi, libère-moi Seigneur, je t'en supplie, parce que moi, je suis attiré par le mal. Si tu ne viens pas me secourir, je vais me laisser entraîner. Soutiens-moi, Seigneur, aie pitié de moi, garde-moi. Hein? Et dans ce bazar céleste, le Christ est resté attaché au Père, il est resté tourné vers son Père. Il n'y a pas d'autre solution que celle-là, de rester toujours tourné vers le Père. Et Hébreux dit, je l'ai déjà lu, mais c'est important, restons, gardons les yeux fixé sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. Il n'y a que lui qui puisse nous délivrer, nous libérer. Il n'y a que lui. Merci pour tous nos prêtres, nos pasteurs, nos anciens, etc. Mais ils sont pas morts pour nous, ces gens-là. Et celui qui vous parle, Jean-Louis, il n'a pas donné sa vie pour vous. Hein? Et c'est bien parce que je demande pardon régulièrement à ma femme, hein, pour toutes les fois, je l'aime de tout mon cœur, hein, mais de temps en temps, ben, ça m'arrive de me tromper, de dire des choses, d'être un petit peu dur, de ne pas la comprendre. Alors je dis, ah, ma chérie, je devrais te demander pardon 3 fois par jour. Une fois le matin quand je me lève, une fois à midi, puis une fois le soir. J'oublie, hein, régulièrement, hein. Je devrais. Bon, donc, il faut vraiment, celui qui avoue ses transgressions et les délaisse, obtient miséricorde. Que Dieu soit béni. Hein? Et alors, ah merci Seigneur. Et l'adversaire de Dieu n'a qu'une pensée, détruire l'Église et Israël qui enfante pour Dieu. Il n'a que cela dans la tête. Si vous lisez Apocalypse chapitre 12, toute, hein, cette femme qui enfante pour Dieu et qui crie dans les douleurs de l'enfantement, hein, elle enfante, elle crie, hein, c'est Marie bien sûr, mais c'est tous ceux et toutes celles qui croient dans le Seigneur Jésus. La femme, l'enfant arrive, qu'est-ce qu'il veut faire Satan? Il est là, au bord, hein, au moment de l'accouchement, hein, il est là au bord et il veut dévorer l'enfant, dit l'Écriture. Il veut dévorer l'enfant. Oh! Mais gloire à Dieu, l'enfant est délivré, il va vers Dieu, et la femme est tenue dans le désert à l'écart où elle est nourrie. Il n'a qu'une pensée. Et quand il est fâché, il s'aperçoit que la femme lui échappe, il va envoyer contre la femme un fleuve de souillure. Il va envoyer un fleuve de souillure. Et l'adversaire de Dieu n'a qu'une pensée, c'est de détruire l'Église de Dieu. C'est de tuer le Christ dans notre vie, dans notre cœur. Mais nous pouvons lui résister par la foi, par la victoire et le triomphe du Christ, par le sang de l'agneau et par la parole de notre témoignage. Nous pouvons lui dire, c'est tout maintenant. Arrête, je refuse tes ruses, je refuse tout cela au nom de Jésus. Je m'attache à Dieu, je m'attache à Christ, je demande le secours de Dieu par l'assistance de l'Esprit. C'est tout maintenant, arrête, au nom de Jésus. Maintenant je suis à Christ. Je suis à Dieu. Oh, que Dieu soit béni. Alléluia. J'aimerais terminer par 2 encouragements. Nous avons eu simplement une célébration à la maison d'arrêt de Loos. Et puis à la fin de cette célébration, les détenus, ils ne s'en allaient pas. Ils restaient à parler ensemble, à gentiment, parce qu'il y en a qui s'étaient peut-être bagarrés avant. Hein, mais pas. À la fin de la célébration, ils restaient. Puis je me suis dit, bon alors, il faut qu'ils retournent dans leur cellule quand même. Hein. Alors moi, je les renvoie en prison, je suis sympa moi. Bon, puis je me suis dit, bon ben range tes affaires quoi. Range tes affaires et puis après, bon ben voilà. Hein. Mais ils étaient toujours là. Hein. Ils sont restés là. Il y en a 4-5 qui sont partis, mais les autres sont restés. Ben ils se plaisaient ensemble, ils discutaient. Et c'est le lendemain seulement que j'ai réalisé ce qui s'était passé. J'ai été dépassé, je me suis dit, c'est pas possible. Il y a quelque chose qui s'est passé dans ces hommes. Il y a quelque chose qui s'est passé, quelque chose qui te dépasse, quelque chose qui est au-delà de toi. Dieu est passé ce jour-là et une fraternité nouvelle est née entre ces détenus. Voyez un peu. Dans un endroit, on ne pourrait pas penser, hein. Dieu est passé ce jour-là. Il a pacifié les relations et ils restaient ensemble. Comme une fraternité nouvelle, brève bien sûr. Hein, que Dieu soit béni. Hein. Et il y a une attente et il y a une fin de Dieu dans notre génération. Il y a une attente de Dieu. Et en distribuant des traités cet été, nous avons remarqué cette attente, cette soif de Dieu. Et avec le groupe de prière, nous avons demandé la possibilité de faire une célébration dans l'église Notre-Dame de Lourdes, qui est fermée depuis Noël. Elle est fermée depuis Noël, l'église Notre-Dame de Lourdes, à LM. Il n'y a plus de célébration. Les enterrements se font à Lezenne. Hein. Pas de jugement. Hein. Hein. On a demandé au prêtre. Alors il nous a dit oui. Alors on s'est mis au travail, on a distribué des traités, on a prié, on a préparé la célébration. Hein. On a déjà eu deux célébrations. Le 16 octobre, on se demandait qu'est-ce qui allait venir, hein. Dans une grande église glaciale, fermée depuis des mois. Hein. Ben, le premier dimanche, il y a eu 25 personnes et deux enfants. Et puis le deuxième dimanche, j'ose pas vous dire ce que mon épouse pensait avant d'y aller. Qu'est-ce que tu disais, Trésor? Je vous le donne en mille. Hein? Merci. Hein? Plus de 40 personnes. Vous rendez compte? Mais puis je me suis dit, mais c'est Dieu qui a envoyé ces gens. C'est pas nous qui les avons rassemblés. C'est Dieu qui les a envoyés. Il y a une telle soif, une telle faim de Dieu dans notre génération que les gens crient. Ils ont faim de Dieu. Et Dieu les a envoyés. Et nous avons eu cette célébration. Tout le monde était surpris. Les dames, là, j'ai mes grandes sœurs, elles ont 75, 80 ans. Tout le monde était surpris. Il y avait des enfants, il y avait des jeunes, il y avait des couples, il y avait des hommes mûrs, il y avait des gens mariés, il y avait des vieillards, de tous âges. Tellement il y a une soif de Dieu dans notre génération. Et je crois de tout mon cœur que Dieu est en train de lever des hommes et des femmes pour que le Christ soit enfanté dans le cœur de notre génération. Je le crois de tout mon cœur. Je crois que Dieu va lever des enfants, des jeunes, des hommes, des femmes, des vieillards, pour que le Christ soit enfanté par le témoignage, leur témoignage, par le sang de l'agneau, par la parole de leur témoignage, pour qu'il soit enfanté dans le cœur de notre génération. Je le crois de tout mon cœur. Aujourd'hui, Dieu appelle ces hommes et ces femmes. Hein? Je le crois. J'y travaille par sa force qui agite en moi, écrivait Paul aux Colossiens. Par la foi dans la parole du Seigneur, retournons sur le terrain, là même où nous sommes déjà passés sans rien prendre. Dans les profondeurs, comme les apôtres avaient pêché toute la nuit sans rien prendre. Par la foi dans le Christ vivant, retournons sur le terrain, même si nous n'avons rien pris avant. Retournons. Si le Christ nous demande quelque chose, de faire quelque chose, faisons-le. Ce n'est pas impossible, même si nous sommes fatigués, claqués, crevés. Hein? Faisons-le. Ce n'est pas, c'est à notre portée. Et nous serons surpris de l'efficacité de la parole de Dieu. Je crois que Dieu donnera du fruit à notre travail. Et je me réjouis de toutes les actions d'évangélisation, des cours alpha, etc., etc. Et nous nous bénissons mutuellement. Vous avez jeûné et prié récemment. Que Dieu nous bénisse et que Dieu nous encourage dans cette direction, parce que c'est le travail de Dieu. Les choses ne se feront pas toutes seules. Dieu a besoin de nous et dans notre mesure, selon nos possibilités, les capacités, les grâces, la grâce particulière que Dieu nous donne, eh bien, allons-y, quoi. Faisons simplement ce que Jésus nous demande de faire. Ne cherchons pas midi à 14h. Allons simplement dans nos rues. Disons simplement ce que le Christ est pour nous. Je le crois de tout mon cœur. Dieu est en train de lever des hommes, des femmes, des enfants, des jeunes, des adultes, des vieillards, pour que le Christ soit enfanté dans notre vénération. Oh, que Dieu nous bénisse, que Dieu nous garde. Alléluia.